Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
8h39 sur RTL, la parole à Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et candidat victorieux de la région Bretagne de ses régionales.
Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Vous êtes à Rennes, ben tout va bien pour vous. Vous êtes le seul candidat à avoir dépassé les 50% de voix. C'est un vrai contraste avec le reste de la gauche. Hein.
Bah écoutez, c'est un résultat qui honore la liste que je conduis, qui est un résultat qui est supérieur à celui que j'avais obtenu en 2010. C'est un résultat qui a plusieurs origines. D'abord, c'est le fruit d'une liste de rassemblements que j'ai construite très tôt et qui regroupe, au-delà des appareils de parti, des hommes et des femmes qui se retrouvent sur un projet.
Mais justement, certains viennent des socialistes. Vous devez votre succès que d'avoir refusé un accord avec des partis comme Europe Écologie Les Verts ou le Front de Gauche.
Oh, certains de ma liste venaient du Parti Socialiste, beaucoup, évidemment moi-même, je suis socialiste. Et puis certains venaient du Parti Communiste, oui, figure reconnue comme telle. Et puis d'autres des régionalistes reconnus comme telle aussi, et puis des écologistes qui ont voulu faire l'accord au premier tour parce que ma problématique, c'est la clarté et la confiance. J'ai voulu que ma liste porte un projet concret sur des objectifs régionaux, sur des sujets qui intéressaient directement les Bretonnes et les Bretons pour leur avenir, avec en plus un bilan qui était positif, d'autant plus que la dernière phase n'était à l'actif de mon successeur Pierrick Massiot, et puis être aussi en situation de se projeter sur des objectifs concrets, pragmatiques, sur les compétences de la région, et en étant dans la clarté et la cohérence. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité faire une alliance tactique rapidement, comme ça, un soir, entre deux tours, avec
Le Parti des Verts.
Les écologistes étaient déjà avec moi.
Est-ce que votre exemple de ne pas passer d'accord avec les partis, mais vous adresser directement à ceux qui sont intéressés par votre projet, ça peut servir ultérieurement à François Hollande, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de la création d'une sorte de grande coalition anti-Front National qui rassemblerait le maximum possible de progressistes, entre guillemets, et qui pourrait aller jusqu'au centre.
Moi, dans la liste qui a gagné, la liste pour la Bretagne, c'est une certaine manière, oui, une forme de grande coalition, sauf qu'elle est très claire sur ses objectifs, très cohérente dans ses projets, et très, très solidaire pour donner de la confiance, et très pragmatique. Ce n'était pas dans mon projet des grandes idées, qui sont toujours très, très généreuses, mais c'était l'application des grandes idées sur le territoire concret. Je vous donne un exemple. Le sujet du numérique, comment est-ce que l'on fait, au-delà des grands engagements, pour réaliser le numérique pour tous? À quelle échéance? Nous l'avons proposé dans la mutualisation, si bien qu'en Bretagne, demain, on pourra avoir l'accès au très haut débit, qu'on soit dans une toute petite commune ou dans une grande ville pour le même prix. Voilà les engagements que j'ai pris. C'est du concret et ça permet une grande coalition.
Alors Jean-Yves Le Drian, l'ouverture en Bretagne, c'est certainement très bien. D'ailleurs, les électeurs vous ont dit oui. Mais dans l'immédiat, il y a Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui dit au gouvernement, on ne peut pas continuer comme ça, il faut agir contre la précarité. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est un moyen d'agir contre la précarité, c'est d'avoir dans les régions des projets de formation, un dispositif d'acquisition de compétences professionnelles qui soit près des jeunes, près des gens et qui permettent de les insérer dans
ça
un dispositif.
Ça va pas remettre 6 millions de Français au travail et du coup la question qu'on a envie de vous poser, c'est chaud.
On ne fait pas d'incantation comme cela. Les gens, ce que j'ai rencontré dans cette campagne, ils veulent du concret et du sens. Du concret pour aujourd'hui, du sens pour demain. Et c'est ce que donne, je pense, le président de la République dans ses orientations. Mais il faut les deux en même temps. Et c'est le rôle des régions d'être le relais des deux en même temps.
Alors, vous êtes président de la région Bretagne, et puis vous êtes en même temps ministre de la Défense. Vous avez dit, en Bretagne, il y a plein de problèmes à régler, notamment la crise du port. Mais est-ce qu'on peut à la fois régler la crise du port et en même temps déclencher ou décider de bombardements en Syrie et en Irak ?
Il faut, dans la période actuelle, il faut y penser aux deux. J'ai toujours été très clair sur mes engagements. Lorsque j'ai quitté la présidence de la région Bretagne en mai 2012, parce que le président de la République m'avait demandé d'occuper le poste de ministre de la Défense, j'avais dit aux Bretons, je reviendrai en 2015. Je suis revenu, ils m'ont refait confiance. Donc il faut être cohérent. Oui. Et ensuite, il y a eu le 13 novembre, et le président de la République a souhaité que pour l'instant, je continue à assumer mes fonctions en raison de la gravité de la situation et de l'état d'urgence. C'est le président de la République qui appréciera jusqu'à quel moment je dois rester dans ces fonctions.
Monsieur Le Drian, tout de même, il y a des pilotes français qui prennent des risques considérables au-dessus du territoire syrien.
Oui.
Est-ce que les risques qu'ils encourent peuvent se conjuguer avec la présence d'un ministre de la Défense à mi-temps ?
Je ne serai pas ministre de la Défense à mi-temps. Je serai ministre de la Défense dans la plénitude de mes fonctions. Et j'ai auprès de moi, ici à Rennes, une équipe qui est prête à assurer la complémentarité de mes fonctions pour que je puisse répondre à la fois à la demande du président de la République et à la situation d'état d'urgence dans laquelle nous sommes.
Vous serez donc président de la région à mi-temps ?
C'est le contraire de ce que je viens de vous dire.
Bah écoutez, il y a quand même quelqu'un qui est floué. C'est soit les Bretons, soit les Français.
Sauf que les Bretons ont voté pour moi, en toute connaissance de cause. Parce que j'ai annoncé la couleur très clairement. Et le président de la République a souhaité que pendant cette période de tension majeure, il n'était pas opportun de changer de ministre de la Défense. Et je pense que les Bretons l'ont compris, puisqu'ils ont voté assez largement pour moi, plus qu'en 2010.
Est-ce que vous êtes indispensable parce que les alliés de la France au Proche-Orient, comme par exemple le roi de Jordanie ou bien le maréchal Sissi, l'Égyptien, ont demandé à François Hollande de vous garder comme ministre parce qu'ils considèrent que vous êtes efficace, compétent, ou bien encore parce que vous arrivez à vendre des rafales?
Je pense que personne n'est indispensable nulle part. Moi-même, j'essaye de faire mon travail le mieux possible. Quand j'ai été ministre de la Défense depuis mai 2012, j'ai eu beaucoup de sujets compliqués, mais j'ai aussi totalement la confiance du président de la République et du Premier ministre. Et quand je suis allé devant les Bretons, je leur ai dit la vérité. Il faut toujours dire la vérité. J'ai dit que je serai candidat à la présidence de la Bretagne pour assurer cette présidence. Mais en ce moment, constatez-le avec moi, il y a une situation particulièrement dramatique, particulièrement tragique, particulièrement tendue. Et en période d'état d'urgence, il est difficile pour le président de la République de dire à son ministre de la Défense, bah, tu arrêtes. Voilà. Et j'ai une bonne équipe autour de moi qui m'a aidé pendant la campagne et va m'aider encore dans la période.
À plusieurs reprises, vous vous êtes montré très inquiet de l'influence grandissante de Daesh en Libye. Est-ce que vous croyez à la réussite de l'accord qui a été conclu à Rome ce week-end pour la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye ?
Je pense que la situation en Libye est très préoccupante, je le dis depuis de nombreux mois. Et j'avais dit plusieurs reprises que Daesh allait venir s'implanter en Libye. Ils sont maintenant en Libye.
Vous êtes favorable à des bombardements ?
Je vais répondre à votre première question avant la deuxième, si ça ne vous ennuie pas. Ils sont à Sirte, ils étendent leur territoire sur 250 km de linéaire de côte, mais ils commencent à pénétrer vers l'intérieur et à avoir tentation d'accès à des puits de pétrole et à des réserves de pétrole. Donc il faut absolument que cessent les conflits intra-libyens, sinon le vainqueur militaire, ça sera Daesh. Alors, heureusement, cette prise de conscience commence à se faire à la fois du côté de Tripoli et du côté de Tobrouk, et on peut penser que les discussions qui sont en cours, à la fois sous l'autorité de Martin Kobler, l'envoyé spécial des Nations Unies, et dans les réunions de Rome qui se sont produites, y compris ce week-end, on va aboutir à une solution politique.
Est-ce qu'il faut les soutenir avec des bombardements ?
Il n'y a pas de solution que de solution politique. Et donc, il faut aboutir à une solution politique entre les différents clans, les différentes fractions qui aujourd'hui s'opposent en Libye, parce que c'est la seule solution pour les uns et pour les autres de se prémunir d'une opération Daesh. Et ils ont eux-mêmes les moyens militaires entre eux pour enrayer la progression de Daesh. Donc il faut qu'ils s'unissent politiquement. Je pense qu'on peut peut-être y arriver. La mission Kobler se présente plutôt bien. En tout cas, le total soutien de la France et du président de la République.
Merci Jean-Yves Le Drian.
Merci.